envoyer des ficelles, mais grosses comme ça n'est pas possible. Et il faut reconnaître que, avec son culot habituel, il a menti comme un arracheur de dents, mais c'est assez, je dois dire que c'est assez remarquable. À bientôt.
Je suis pas contente, Mermet. Je suis pas contente. Ben moi, ce matin, à cause de vous, je n'ai entendu que les questions dans l'interview de Sarkozy. Et la faute à qui? Hein? La faute à qui? Moi, je vous le demande, Mermet. La faute à qui? Et pourquoi ça, Mermet? Hein? Pourquoi ça? Moi, je vous le dis, hein, Mermet. Ça, c'est pas bien. Martine, de l'usinet.
Salut Daniel et toute son équipe. Bon, je voulais dire que des fois, les ouvriers disent des conneries. Hein. J'ai entendu sur ton émission qu'en Gandrange, les ouvriers avaient été licenciés, Mittal, tout ça, ça avait fermé. Mais ce matin, j'ai entendu Sarkozy à la radio sur Inter qui a dit que pas du tout, tous les salariés de Gandrange avaient retrouvé un boulot. Quand même, c'est le président, il dit pas de conneries, autrement il se ferait taper sur les doigts, les journalistes réagiraient. C'est les salariés qui disent des conneries, je crois. Quand même, le président, il va pas mentir aux Français. Moi, je vous le dis, je ne mens jamais. Voilà ce que j'ai entendu. Donc, il a dit que les salariés avaient tous retrouvé du boulot. Donc, il faut accorder les violons. Allez, bonne journée, ciao.
Bonjour, petite précision footballeur qui visiblement s'inquiète de la taxation à 75% de leurs revenus, ou à Nicolas Sarkozy qui ne sait visiblement pas comment fonctionne l'imposition. Messieurs, créer une tranche de 75% au-dessus de 1 million consiste donc à taxer la part qui dépasse. Donc je dis bien la part qui dépasse. Je donne un exemple, celui qui touche 1 million, 100 000 euros à l'année, n'aura que les 100 000 euros taxés à 75% et non la globalité. Alors pour ça, il faudrait réécouter le journal de 13h, donc de Patrick Cohen du 28 février. Son invité Joël Loz du syndicat unifié des impôts l'explique bien. Je regrette donc que ce matin, Patrick Cohen ne l'ait pas réexpliqué aux auditeurs et surtout à Nicolas Sarkozy qui s'agite et qui agite tout le monde. Donc voilà, hein, donc je répète bien aux footballeurs, ne vous inquiétez pas, c'est pas sur la totalité. Derek.
En voilà un raisonnement qu'il est nul comme raisonnement. Et pourtant, c'est le raisonnement de base du capitalisme. Si un type est plus doué que les autres, eh bien, il doit gagner plus. Et alors, si vous le taxez, eh bien, il va aller ailleurs. Alors, quand on parle de faire la chasse au génie, Sarkozy, il a parlé, si demain, on a un génie comme l'autre, là, Steve Jobs, je crois. Ou ensuite, ont été évoqués les grands artistes, les champions sportifs. Si demain, nana... Hein, vous allez prendre un fusil et leur dire, parce que faire la chasse, c'est pas justement les menacer d'une arme. Ah, toi t'es doué, casse-toi. Non, non. Ça veut dire que, implicitement, il y a l'idée que quelqu'un qui est plus doué que les autres, il mérite beaucoup plus d'argent. Ça veut dire, implicitement, on considère qu'il doit y avoir une correspondance matérielle à un talent qui n'est pas spécialement d'ordre matériel, une capacité, du caractère, des dons physiques. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est absurde, cette façon de penser? Alors, si un génie considère qu'il doit gagner beaucoup plus parce qu'il est un génie, eh bien, d'après moi, c'est pas un génie. Parce que, en tant qu'être humain, il n'a pas plus de besoin que le premier imbécile du coin qui va réinventer. C'est stupide comme raisonnement. Mais ça, alors là, c'est l'argument le plus bête qui existe, à mon avis, et qui malheureusement est très, très enraciné dans la culture, et dans la civilisation et dans la pensée de beaucoup de gens. Oh ben attends, si tu as plus de diplômes, tu mérites de gagner plus. Mais qu'est-ce qu'il faut être con pour penser ça?
Salut Mermet, c'est Félix de Nantes. Superbe émission que tu viens de nous offrir, là. Avec un point d'orgue quand même, c'est La cigale et la fourmi par Stéphane Guillon, c'était un bonheur. Bon, avec tes détails sur l'utilisation des « on » et des « je » dans l'expression de Sarkozy, je voudrais quand même te donner le dicton du jour, qui peut se résumer comme ça. Tout le monde est bien d'accord pour dénoncer la pensée unique. Allez, merci encore, salut Mermet.
Et merci pour cette phrase, tout le monde est bien d'accord pour dénoncer la pensée unique, merci à tous. Et bien comme ça vous a plu, on remet ça aujourd'hui, les 1000 discours de Sarkozy avec Damon Maillard, chercheur, spécialiste en linguistique, qui depuis des années, avec son grand ordinateur, analyse, décortique les mots des discours et des interventions des personnages politiques. Alors il a fait Chirac, vous vous souvenez, Chirac, le mot qui revenait le plus souvent dans la bouche de Jacques Chirac, c'était « naturellement ». Et puis il a comme ça analysé tous les présidents de la Ve République. Et là, il s'attache un peu plus précisément à Nicolas Sarkozy. Ceux qui ont écouté l'émission d'hier, c'est bien ce qu'on pensait, nous ont dit que ce matin, ils avaient été beaucoup plus en alerte, les oreilles beaucoup plus affûtées. Et ça a été pour les uns renversant, consternant, vigilant, etc. Enfin bon, on a des bons échos et je vous en remercie. Donc aujourd'hui, seconde partie, la suite. On a vu hier, Damon Mayafre nous a expliqué la place du « on » dans le discours de Sarkozy, la place du « ça » dans le discours de Sarkozy, la place de l'interrogation, etc. Alors, vous lui dites « oui, mais c'est pas lui qui écrit ses discours, il a une plume, c'est Henri Guénaud, etc. » Alors hier, on avait le sketch de Stéphane Guillon qui disait « oui, mais il y a des sorties de piste quand il lit ses discours, et là, c'est du Sarkozy pur ». Et puis, il y a que, un auteur comme M. Guénaud, c'est comme le parolier de Johnny. Il écrit des mots qui vont dans la bouche de son artiste. Donc, on peut considérer que là aussi, c'est du Sarkozy. Ou bien, après tout, ça peut être du Guénaud aussi. Et à ce moment-là, ils ont une pensée commune et un discours commun. Et toutes les conclusions que vous pouvez tirer à partir de ce qui est dit et la façon dont c'est dit. Ce que Damon Mayafre, à travers ses études extrêmement, c'est extrêmement savant, scientifique, patient, c'est incroyable d'ailleurs, la quantité d'informations qui sont réunies et qui sont mises dans ces ordinateurs avec d'énormes logiciels, des systèmes invraisemblables. C'est la rupture dans le discours depuis la Ve République, depuis 58. Et la rupture avec Nicolas Sarkozy, qui parle peuple, qui parle direct, qui parle cru, et qui a donc recours à tous ces gimmicks, tous ces mots, toutes ces formules, ces inversions de phrases, etc. Mais qui, toutes, reposent sur un présupposé idéologique qu'il ne demande qu'à se manifester à travers le langage et à travers cette recherche et les analyses de notre chercheur. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
J'ai pris dans mon coin clos du sable sur la grève où le temps a vidé le sablier des jours. Et ma main a vu fuir cette poudre des siècles entre ses doigts serrés pourtant avec amour. J'ai pris dans ma main creuse ainsi qu'en une coupe un peu du flot amer, si calme ce matin, pour voir si l'eau salée a le goût de mes larmes. Et ma main reste vide et tendue au destin. J'ai voulu conserver au fond de ma mémoire le souvenir pensif de tel visage aimé, et je sens déjà que ma fragile mémoire trahit le vœu fervent que mon cœur a formé. Et j'ai voulu chasser de ce cœur qui l'obsède ce penser. Tout nous fuit, tout s'écoule, tout meurt. J'ai repris dans mon poing du sable sur la grève, qui donc retournera mon sablier.
Salut Mermet, petit parallèle historique, 19 mai 1933. Instituteur, professeur, rappelez-vous bien ce en quoi vous différez essentiellement des prêtres. Vous proposez, vous discutez, vous démontrez, si vous pouvez. Mais vous ne prêchez pas. Prêcher est immoral. C'est le principe qui distinguera une morale vraiment laïque. Jean Prévost, fusillé par les nazis le 1er août 1944. Décembre 2007, Nicolas Sarkozy, président de la République laïque. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s'il est important de s'en approcher. Parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme de l'engagement porté par l'espérance. Voilà, Pierre de roman Conviction durable. Salut.
J'appelle pour dire merci à notre président qui joue bien l'acteur. Oh, je crois qu'il devrait avoir même quelque chose de spécial parce que, comment l'entendre parler, on croirait jamais qu'il est président depuis déjà 5 ans. Merci beaucoup pour toute chose. Au revoir.
Ouais, alors, très fort, hein. Franchement, en peu de mots, une émission relativement courte, évidemment, le chercheur, en l'occurrence, a condensé la critique qu'on peut faire à la rhétorique sarkozienne, quoi. Je voudrais juste ajouter que, en fait, Sarkozy, finalement, ce qu'il fait, c'est non pas de répondre à des questions par rapport à son bilan, qu'il soit ponctuel ou général, mais en fait, il vous autorise à naviguer sur ses justifications et à apporter quelques briques pour le soutenir. Et on peut dire globalement que ce n'est pas une rupture, à mon avis. Je m'inscris un petit peu en faux sur ce qu'a dit le chercheur, mais c'est simplement la maximisation de l'impensé de la réponse politique. C'est-à-dire que la réponse politique, en fait, elle ne vise jamais à rendre des comptes, mais à s'auto-justifier, et c'est ce qu'au fond à peu près tous les hommes politiques depuis peut-être 30 ou 40 ans, quoi. Donc ça ne va qu'en s'accentuant, et Sarkozy, pour le moment, représente le maximum de cette tendance. C'était Alain de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Mais je vais vous parler très franchement,
peuple français.
On prend tout.
Alors là, j'ai le condensé du sarkozisme.
La crise économique.
C'est un tableau avec plusieurs colonnes qui apparaît.
Ça ne peut plus durer.
Ah oui, voilà, les mots.
Bonne parole.
De prennent des couleurs différentes.
Et c'est à vous que je veux parler.
C'est Daniel Mermet, la pastille jésuite, avec Yvonne et la Montmartre. Nicolas Sarkozy, ça ne peut plus durer. Flight number 2, arriving from
New York. Alors, le mot Sarkozy, s'il en fallait en choisir un seul, c'est ça. Le pronom.
C'est lequel?
C'est ça, c'est dit à.
Ça?
Oui, ça. Le pronom démonstratif neutre. Dans une forme vulgaire, Sarkozy, par exemple, répète sans cesse « ça ne peut plus durer ». Ça suffit comme ça. Et derrière ce mot, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a tout le sarkozisme dans la version populiste républicaine qui, avec le «
ça »,
peut désigner au fond tout et n'importe quoi sans vraiment préciser le contenu.
Si vous me posez la question de savoir si ça me choque, la réponse est non.
Mes chers compatriotes, l'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude pour beaucoup d'entre vous. La crise économique et financière commencée il y a 3 ans a continué à faire sentir ses effets.
Et dont l'écho semble se récupérer
perdu leur emploi, ce qui n'a fait qu'exacerber le sentiment d'injustice ressenti par des salariés qui n'étaient en rien.
Pourtant, des milliers de discours, des millions de mots, étudier, rapprocher, disséquer et placer dans un ordinateur géant avec un logiciel de logométrie. Voilà les résultats que ça donne. Alors ça donne des résultats sur les mots, sur le nombre de fois où tel mot est utilisé, comparé à d'autres discours politiques. Et puis à la fin du travail, enfin, et c'est évidemment la récompense du chercheur, il interroge son ordinateur pour savoir quelle est la phrase la plus caractéristique du discours de Sarkozy, après avoir quand même placé 85 000 phrases du corpus présidentiel entre 1958 et 2012. Et que fait l'ordinateur? Il cherche, il mouline, et enfin, il donne la phrase la plus caractéristique du discours de Sarkozy. Et vous allez voir, c'est très court. C'est un cadeau aux riches, point d'interrogation. Quand on travaille toute sa vie, de devoir en plus payer un impôt parce qu'on laisse à ses enfants
le produit d'une vie de travail ? Point d'interrogation. Et bien voilà. Voilà ce qu'a dit cet ordinateur à la fin de ce travail, ce qui restera peut-être de Sarkozy, de son langage, de ses interventions, de ses discours, de ses millions et millions de mots prononcés. Ce sera peut-être ça, sans doute ça, en tout cas au terme de cette recherche. C'est une façon effectivement étonnante, nouvelle en tout cas, d'analyser par la linguistique, par le langage, par les mots eux-mêmes, par le nombre de fois où ils sont utilisés, pas seulement comme ça isolés les uns des autres, mais à l'intérieur de phrases, à l'intérieur d'un discours. Qu'est-ce que ça révèle ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça démasque ? Qu'est-ce que ça dévoile de la pensée et de l'impensée d'un personnage aussi omniprésent qu'aura été Nicolas Sarkozy ? Avec Guy Vanctil, donc, nous passons cette heure avec Damon Maillafre autour du livre qu'il vient de publier aux éditions Sciences Po, Nicolas Sarkozy, mesure et démesure du discours. C'est jusqu'à 16h, c'est la basse édition.
Mesdames et messieurs, un mot. Je voudrais vous dire que je ne m'accroche pas sur les mots. Ça m'est totalement indifférent, le vocabulaire n'a pas de sens. Ah non, excusez-moi, les mots ont un sens. Ils doivent l'avoir pour vous s'ils l'ont pour moi. Enfin écoutez, ne vous laissez pas quand même envahir par des mots, M-O-T-S, qui n'ont aucune signification derrière. Je suis désolé, mais les mots ont un sens. Ah bon ?
Tiens-les bien, tes mots.
Un mot ?
Lâche-les bien, tes mots.
M-O-T-S ?
Les mots mordent, les mots tuent.
Des expulsions collectives.
Tu les cherches, tes mots. Ils se perdent, les mots. Dans une voie sans issue.
Vous pouvez retirer le mot, il n'a pas existé.
Je les gomme, tes mots.
Je veux changer le pays.
Je les digère, salaud.
Mais j'assume.
Je les mâche, tes mots crus.
Parce qu'ils sont arabes.
Mais ils m'agacent, ces mots.
Extraordinaire.
Me tracassent, c'est trop.
Remarquable.
Je les efface, ils refluent.
Qu'est-ce que j'ai dit ? Rien.
Ouvre, voir ce qu'il sort.
J'essaie d'être sincère à chaque minute de mes prises de parole. C'est vrai, les mots ont un sens. Ce n'est pas vrai. Le vocabulaire n'a pas de sens. Je suis désolé, mais les mots M-O-T-S ont un sens. Ah non ? Mais vous croyez quoi ? Le ridicule ne tue plus, fort heureusement.
Il me berce, tes mots.
Travailler plus.
Me bouleverse, c'est bon.
C'est du sérieux.
Il nous charme, mais il s'use.
Je n'ai pas eu d'augmentation de mon salaire.
Boucle là et puis dort.
Bonjour Nicolas Sarkozy.
Bonjour Patrick Cohen. Je vous remercie de votre question. Je vois bien là d'ailleurs l'un des problèmes de la vie politique où on s'attache tellement davantage à l'image qu'au fond. Mais qu'est-ce qui compte pour les gens ? Qu'est-ce qui compte ? C'est qu'on apporte des solutions aux problèmes.
Damon Maillafre, chercheur.
Très souvent, Nicolas Sarkozy, si vous lui posez la question, il va reformuler votre question pour se poser une question ad hoc pour laquelle il a une réponse. Donc ça, c'est gagnant à 100%, puisqu'il va définir lui-même le périmètre des bonnes questions à se poser. C'est, au fond, de détourner le discours.
La question que je pose, y a-t-il un pays dans le monde, un seul, où il existe une taxation à 83%? La question que je me pose, est-ce qu'il vaut mieux que tous ces gens qui ont de l'argent payent 53% d'impôts et restent en France, ou payent, en théorie, 83% et s'en vont? Qu'est-ce qui restera pour le trésor français? Est-ce que le but, c'est que nous soyons les seuls dans cette situation? Et je vous pose une question. Si nous sommes les seuls en Europe avec une taxation à 83%, tous ceux qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. Qu'est-ce qui fera la France? Qu'est-ce qui restera? Où est-ce qu'on va trouver des gens pour investir? Monsieur Mittal, par exemple, vous savez combien il emploie de gens en France? J'ai vu qu'il y a une proposition du Parti Socialiste pour obliger Monsieur Mittal à vendre Arcelor. Mais à qui? À qui? À qui a-t-on le vendre? À un financier russe? À qui?
La proposition à qui?
Est-ce que vous trouvez que pour le trésor français, les gens vont partir? Qu'est-ce qui restera? Qui payera les cotisations? Qui viendra payer des impôts au trésor français? Mais une fois que vous l'avez autorisé, obligé à vendre, vous le vendez à qui? Un financier?
Damon Maillafre, chercheur.
c'est passionnant de voir comment effectivement l'ordinateur va pointer ce qui a été ressenti par tous les commentateurs et tous les humoristes qui montrent un président qui se pose des questions à lui-même, phrase après phrase, je sais pas, 20-30 fois dans chaque discours. Donc hein, c'est pas anecdotique, quoi. C'est pas anecdotique. Et ça, la statistique le fait ressortir aussi, puisqu'il y a une phrase sur 10 qui est interrogative dans le discours de Nicolas Sarkozy.
C'est-à-dire que Sarkozy pose une question toutes les 10 phrases.
Exactement.
Le quotient familial, c'est pour les riches ou c'est pour les familles françaises? Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va payer? Car après tout, si demain, on a en France un génie comme il y en a eu Steve Jobs ou des gens comme ça, est-ce que vous croyez qu'on doit absolument les mettre dehors? Leur dire de partir? Si demain, il y a un Bill Gates, est-ce que franchement, il faudrait qu'on dise à Bill Gates, partez, vous nous gênez? Est-ce que c'est ça qui compte? On doit absolument les mettre dehors? La France n'en a pas besoin? La France n'a pas assez de chômeurs? Il faut qu'on ait encore plus? Il faut absolument faire la chasse à tout ce qui crée, à tout ce qui innove? Mais vous vous êtes jamais fait la remarque? Pourquoi des gens, dès qu'ils parlent de l'argent, se mettent en transe? Quel est le sens? Et c'est ce qu'on attend d'un président de la République? Vous avez parlé tout à l'heure dans la revue de presse, c'était intéressant et d'une certaine façon enlevé, de ce qui se passe en Grèce. Pourquoi cette femme a-t-elle voulu sauter par la fenêtre? Pourquoi? Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de Français qui veulent être dans cette situation? Est-ce que vous croyez que l'exemple italien, espagnol ou grec fait tellement envie? Est-ce qu'on pense que les enfants sont tous les mêmes? Est-ce qu'on imagine qu'il n'y a pas besoin que l'enseignant ait du temps, qu'il soit rémunéré? Est-ce qu'on se pose la question de savoir combien d'enfants aujourd'hui dans une classe ont envie de devenir professeur? Qui ça fait rêver aujourd'hui, monsieur Legrand? Pourquoi?
Et du coup, il apparaît comme celui qui détient toutes les vérités, puisqu'il n'est jamais embarrassé par les questions, puisque c'est les questions qu'il se pose à lui-même.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il est normal qu'un professeur ne puisse pas recevoir un enfant de sa classe en dehors des heures de classe, parce qu'il n'y a pas de bureau? Est-ce qu'il est normal qu'on considère que le travail d'un professeur soit uniquement le travail de la classe? Est-ce qu'il n'y a pas des dialogues à avoir avec un enfant qui ne suit pas? Cela, on en fait quoi? On les renvoie chez eux? Comment ils vont voir qu'un enfant de la classe a des problèmes? Qui paye? Comment on va faire? Imaginez, Jacques, si un dirigeant de radio faisait campagne pour moi, officiellement, dans un journal comme L'Express. Qu'est-ce qu'on dirait?
Damon Mayafre.
Et puis, il y a le dernier type d'interrogation, peut-être le plus pratiqué, c'est cette façon de contre-interroger son auditoire, et particulièrement les journalistes. À chacune des questions un peu gênantes qu'il va recevoir, il est susceptible de répondre par une contre-interrogation, plus violente encore, souvent, plus manichéenne, par exemple sous la forme du oui-non.
Dans cette maison même, un dirigeant de radio, dans l'Express, appelle à voter pour le candidat socialiste. Est-ce que c'est normal dans une radio de service public?
Pas de cette radio.
C'est pas dans cette maison même, c'est pas France Inter.
C'est laquelle?
Dans cette radio. Monsieur, alors, monsieur, soyez plus précis. Parce que...
Dites-le vous-même, monsieur le président.
Ah bon, parce que vous ne lisez pas l'Express?
Non.
C'est pas Radio France ici? Mais pardon, est-ce que c'est la République exemplaire? Imaginez.
Justement, ma question est sur ce sujet.
Imaginez, si un dirigeant d'une radio faisait campagne aujourd'hui, pour moi, une radio publique.
Mais il se trouve que c'est pas notre dirigeant.
Non, non,
de notre
mais peu importe. Je ne citons pas le nom. Mais c'est, non, dans, mais le c'est bon. Dans le groupe. Bon. Mais non, mais c'est
non,
pas
c'est...
gênant.
Non, mais c'est dit. C'est dit.
Allez-y. C'est dit. Mais il faut parler. J'imagine la matinale. Si un dirigeant d'une radio ou d'une télévision publique avait fait un papier dans un journal pour dire mon choix, c'est le candidat socialiste. Ou c'est le candidat Sarkozy. Ça ferait un scandale épouvantable.
Dans ce cadre-là, retourner la question vers les journalistes, comme le fait quasi systématiquement Nicolas Sarkozy, c'est retourner les rôles. C'est-à-dire que ce n'est plus un président qui a à rendre des comptes à l'opinion publique via la presse, mais c'est une presse, une élite qu'il soupçonne de collusion avec l'opposition ou que sais-je, qui se trouve interrogée par le président, qui est mis en accusation. Donc à chaque interrogation que la presse peut porter à Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy est capable de répondre par un contre-interrogatoire d'une certaine manière.
Ah bah oui. Pourquoi d'autant... les choses... Non mais, Thomas Legrand, est-ce que j'ai refusé de suivre l'avis de la commission qui doit trancher?
Non
une
mais
fois.
Personne ne peut vérifier
parfait.
Ce qui
parfait.
Est...
Parfait, pas une fois. Pas une fois.
Résultat, au cours de cette émission, en 29 minutes de réponse, Nicolas Sarkozy a posé 65 questions.
Nicolas Sarkozy, merci d'être venu ce matin à France Inter.
C'était bien agréable d'être avec vous.
Merci à vous.
C'est à vous que je veux parler.
L'année 2010.
sa chair.
Et je sais.
Voilà. La petite analyse de là-bas, si j'y suis, sur ce que vous n'avez pas manqué d'écouter, j'espère. C'était très important ce matin dans le 7-9 de France Inter. Parfaite illustration du travail de Damon Mayafre avec sa recherche, son approche scientifique, méthodique, linguistique, historique et ses analyses à lui qui, toutes scientifiques qu'elles sont, ne manquent pas d'être évidemment celles d'un homme, donc avec une certaine subjectivité. Il ne faut pas éliminer ça, il faut toujours avoir ça bien, bien présent à l'esprit. Donc on continue cette anatomie du discours sarkozyste.
Vous notez que pendant la première année de sa présidence, il a prononcé 170 fois « je veux être le président de ».
Oui, c'est presque une autre façon de définir ce qu'est un président. Au fond, Nicolas Sarkozy définit la fonction présidentielle par celui qui a envie d'être président. Au fond, le président est celui qui veut être président.
Celui qui a la gagne.
Celui qui a la gagne. Je crois qu'il il l'a toujours dit, même pendant la campagne 2007. Hein,
celui qui pense tous les jours en se rasant, voilà, c'est ça.
Exactement. Cette envie, cette façon d'afficher sans complexe ses ambitions, cette volonté d'être le président. Mais il y a effectivement, je l'ai montré là par un certain nombre de citations, en 2007, une vraie jouissance de sa part d'avoir gagné l'élection. Et puis, toujours quand même, il faut ramener ça à des considérations un peu plus institutionnelles, effectivement, cette légitimité, cette autorité qu'il tire de son élection et qui lui donne ce statut de tribun du peuple.
Je vais être le président de tous les Français.
Il est le représentant, il est la voix du peuple, hein, de fait de son élection. Et effectivement, il en jouit assez ouvertement.
Je vais être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat.
Et constamment, dans ses interviews télévisées, il dit « Mais quand même, j'ai été élu par 53% des 1. » Il dit même à un moment, 85% des électeurs, ramenant son élection à, non pas au score qu'il a fait, mais au taux de participation. Mais il montre qu'il a une sorte d'adhésion unanime.
Je vais être le président de la France des droits de l'homme. Je veux être le président de la France des droits de l'homme.
Et c'est vrai que Mitterrand était capable de sorties aussi égotiques, aussi narcissiques. Hein.
Je veux que tous sachent.
Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français.
Je veux que tous sachent. Je veux que le Parlement ait davantage de pouvoir. Je veux donner à chacun sa chance.
Je veux que les nominations. Je veux être celui par lequel la France.
Je veux que les ministres. Je veux défendre la Ve République. Mais je veux changer la pratique de la République. Plus de simplicité. Plus de proximité. Plus d'humilité. Plus d'authenticité. Au fond, je souhaite, si vous me faites confiance, être le président d'une démocratie moderne qui sera exemplaire au regard du monde.
Une nouvelle proposition de François Hollande qui a surpris absolument tout le monde.
Ce que je veux être, c'est le président de la justice.
Mais Nicolas Sarkozy le fait même trop en 2007 et il va se corriger. C'est un peu le sens aussi du graphique que je viens de vous montrer. Il se corrige et par exemple, il balance 2007, 2008, 2009. Son énonciation est pratiquement toujours à la première personne du singulier. Je veux, de façon générale. Et au fil de son mandat, il va quand même transformer son discours pour le prononcer à la première personne du pluriel « nous ». Il va associer le gouvernement, nous, les Français. Et c'est quelque chose donc, que vous voyez, on enregistre sur la durée et qui, je pense, se fait ressentir aujourd'hui dans le cadre de la campagne électorale 2012.
Je veux réhabiliter le travail. Ce que j'essaye de faire, c'est de redonner du carburant à la croissance française.
Alors, ce qui est intéressant chez Nicolas Sarkozy, le thème majeur, c'est le thème du travail. Donc ça, c'est facile à mesurer. On s'aperçoit qu'il utilise bien souvent le nom travail, mais le verbe travailler, que les autres présidents, c'est indéniable sur le graphique. C'est frappant, la statistique me fait ressortir tout de suite ça. Mais plus intéressant encore, c'est de voir comment cette thématique, ce mot travail, s'articule avec les autres mots. Et regardez la comparaison que l'on peut faire entre Nicolas Sarkozy et De Gaulle. J'aurais pu le faire avec Mitterrand. Mais vous voyez comment Sarkozy associe toujours le travail à cette idée de valeur, c'est-à-dire la libération par le travail, l'épanouissement de l'individu par le travail. Vous savez, cette dialectique du maître et de l'esclave. Finalement, l'esclave qui est condamné à travailler serait plus libre que le maître.
Il dépend du travail de l'esclave pour être maître.
Exactement. Alors que De Gaulle est encore, malgré lui, parce que c'était pas un marxiste, comme vous le savez, mais l'ambiance des années 60 oblige, parler du travail comme mode d'organisation. Alors regardez les concurrents de chez Sarkozy. Travail, c'est réhabiliter. Vous réhabilitez le travail. Et regardez ces jolis mots. Le fruit du travail. Libérer le travail. L'effort. Le mérite. Le partage, qu'il dénonce, le partage. Revalorisation du travail. La récompense. Le travail chez Nicolas Sarkozy ne mérite pas simplement un salaire, mais plus encore une récompense. Voilà, la stat là est vraiment merveilleuse, puisqu'elle fait ressortir des co-occurrents chez De Gaulle. Vous voyez, plus du tout pas un seul mot commun, et c'est technique, le rendement, la production, l'information, le capital. Ouais. Travail, se réfléchir en opposition avec le capital. On est dans un paradigme marxiste, ou marxisant de l'époque, là où donc Sarkozy renverse complètement la donne. Et c'est comme ça qu'il a repris la thématique du travail à la gauche, en le sortant de cette question de l'organisation du monde du travail, de l'exploitation, ouais, du rendement, etc., pour le placer au niveau d'une éthique, d'une morale.
C'est-à-dire que ça fait une phrase où on dirait qu'il faut réhabiliter le travail, fruit de l'effort qu'il mérite, pour revaloriser et qu'il offre la possibilité de la liberté. Tout ça sont des mots qui viennent avec travail pour Sarkozy.
Complètement, et c'est-à-dire qu'ils viennent, c'est de manière mesurée. Vous en faites un résumé qui est très juste, mais que l'on peut mesurer, donc phrase après phrase ou paragraphe après paragraphe, où il y a le mot travail, et on s'aperçoit que les sorties machines sont à ce point spectaculaires.
Vous voulez changer de sonnerie ?
Ma réponse, c'est oui.
Téléchargez Nicolas Sarkozy sur votre téléphone portable.
La procédure, quelle est-elle ?
Envoyez le mot
Speedy
et recevez la sonnerie.
Nettoyez le racaille. Nettoyez le racaille.
Sur votre mobile.
Extraordinaire.
Tapez.
J'ai peur.
Et envoyez votre SMS au 8 10 10 10 10 10.
100 SMS offerts pendant un mois vers tous les débiles.
Je suis là en permanence. Je ne vous lâche jamais.
Nicolas Sarkozy joue à la fois de la surenchère lexicale systématique et de la sous-enchère syntaxique.
Ça veut dire quoi, ça ? Faut me décoder cette phrase.
Alors, c'est très simple. C'est surtout, il suffit de prendre phrase après phrase les discours de Sarkozy et on peut s'en apercevoir. La surenchère lexicale, c'est toujours utiliser un mot plus fort que le vôtre, plus fort que le discours moyen, plus fort évidemment et ô combien plus fort que les mots du discours présidentiel. Exemple, si vous dites 35 heures, il ne va pas dire une erreur, il va dire une folie. Le mot est très fort, on ne le retrouve jamais chez De Gaulle, ou Pompidou, ou Giscard. Et là, on le retrouve plus de, je crois, une trentaine de fois. Une folie, donc c'est quand même à la limite de l'insulte. Si vous dites 60, la retraite à 60 ans, il va dire un mensonge, là aussi. Donc ce sont des mots très très forts que l'on ne retrouve pas. Donc une surenchère lexicale. Alors ça, je l'ai montré évidemment sur le thème de l'insécurité. Et là, c'est spectaculaire. Ce sont non seulement, la statistique là dit que non seulement ce sont des mots qui sont caractéristiques de Sarkozy par rapport aux autres, mais elle dit aussi que ce sont des mots qui sont exclusifs de Sarkozy. C'est-à-dire que c'est des mots que vous ne retrouverez jamais dans la bouche, là aussi, d'un Giscard d'Estaing ou d'un Mitterrand ou d'un De Gaulle. Alors vous avez par exemple cette liste sous les yeux.
C'est le petit inventaire à l'après-vert que vous avez fait.
Oui, des mots qui sont donc exclusifs. Et alors on trouve voyou, effectivement, je caricature un tout petit peu, je sais que Jacques Chirac l'a utilisé deux fois, mais pas aussi souvent que Nicolas Sarkozy, et les autres présidents, jamais. Mais à côté de voyou, on trouve caïd, trafiquant, truand, dealer, casseur, violeur, guetteur, serial voleur, barbare, pédophile, agression, grand frère, délinquant sexuel, cocaïne, héroïne, résine de cannabis, mafieux, assassinat, trafic, barre de fer, fronde, patrouille, vidéosurveillance, arme automatique, cocktail molotov, etc. etc. Donc ce sont des mots, on va dire, très forts. C'est quasi rablaisien de temps en temps. Et écoutez cette phrase.
Et c'est 20 avril 2010.
Et ces truands se vengent en agressant les policiers, les chauffeurs d'autobus, les sapeurs-pompiers. Ces truands se défoulent en insultant et en lynchant ceux qui ont malheur de tomber dans leurs mains, qu'ils soient enfants, personnes âgées ou handicapées. Donc là, ils peuvent... Alors c'est un des vrais problèmes aujourd'hui du discours de Nicolas Sarkozy, c'est que dans cette surenchère lexicale, cette façon d'utiliser toujours des mots forts, il est peut-être arrivé au bout de son discours. C'est-à-dire, peut-il aller plus loin que effectivement lyncher, voyou, racaille? Aujourd'hui, il essaie de renchérir encore, mais on a l'impression qu'il fait un peu tous les jours un peu tapis et que sa surenchère lexicale arrive au bout.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Le terme nettoyer au Percher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela.
Puis tous ces voyous là qui brûlent des voitures.
Alors tu cites le mot voyou, est-ce qu'il y a des mots que tu regrettes d'avoir prononcé?
Non.
Tu veux dire racaille?
Non.
La France change, on s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au carcère, on était volontaires, tous ces magouilleurs déguisés. Ok, pour nettoyer la racaille, nous portons donc carcériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens, libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillonnant la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux, que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation. Article 49, répression, couvre-feu, dépassé, ta 5ème République a pris un coup de vieux. Nos ras-le-bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral, les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale. Nettoyage au Percher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des racailles. Nettoyage au Percher, gouvernement honteux, est-ce que rien n'amène à la démission? Nettoyage au Percher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des racailles. Nettoyage au Percher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Percher, sortez les dossiers noirs, comme l'Afrique demande à faire. Nettoyage au Percher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Percher.
La crise économique et financière commence.
Des milliers de discours, des millions de mots analysés, disséqués, placés dans des ordinateurs avec des logiciels spécifiques pour arriver à ces résultats, l'analyse, les analyses du discours, des mots, évidemment derrière des idées, des intentions et des manipulations du président, de l'actuel président de la République. Alors, Damon Mayafre, ce chercheur, a appliqué ses méthodes à d'autres, notamment, vous vous souvenez peut-être, on en parlait tout à l'heure, à Jacques Chirac, il l'a fait avec le discours de Ségolène Royal. Le fera-t-il avec François Hollande? C'est bien possible qu'on ait bientôt des choses à vous faire entendre sur son travail, on verra. En tous les cas, pour l'instant, c'est l'actuel président de la République qui est sur la sellette.
Alors, sur la question de l'insécurité, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle se trouve au fond partout et va permettre à Nicolas Sarkozy d'aborder beaucoup de thématiques. Et alors, le mot, par exemple, ici, sur ce graphe, le mot quartier est intéressant, puisque c'est la vision de Nicolas Sarkozy, et là, quelque part, sa politique de la ville qui est en jeu. Et on voit comment le mot quartier est associé, grâce donc à ce graphe de concurrence, à un certain nombre de mots plus ou moins attendus, des quartiers en difficulté, des quartiers avec les jeunes, des quartiers avec des contrats d'autonomie, les quartiers avec la ville, évidemment, le quartier avec le territoire. Donc c'est intéressant de voir que il y a une association de concurrence qui construit la thématique des quartiers, mais on s'aperçoit dans ce graphique que l'ensemble des mots en question, comme territoire ou comme jeune ou comme contrat ou comme autorité, ont tous un concurrent commun qui est le mot police. Regardez ici au centre du graphique, c'est-à-dire que ce qui quelque part unifie ce réseau sémantique autour du quartier, c'est centralement, vous voyez, ce renvoi à la police dans les quartiers, la police qui va être obligée de traiter des jeunes, la police qui a un problème d'autorité, la police sur les territoires, la police dans la ville, le contrat d'autonomie qui doit être en partie encadré par les commissariats. Donc vous voyez que là, on peut aller un peu plus loin que ce que j'ai pu dire jusqu'à présent sur le vocabulaire immédiat de Sarkozy, mais voir comment ce vocabulaire se tisse, s'entremêle, s'entrelace pour construire des thématiques. Et ici, comment on peut voir qu'une question comme la question des quartiers est traitée par Nicolas Sarkozy sous l'angle de policiers, on va dire.
C'est ça, c'est ce que nous montrent ces graphiques faits par l'ordinateur, c'est que quand Sarkozy dit quartier, il dit autonomie, majorité, formation, ville, territoire, contrat jeune. Mais ce que nous montre aussi l'ordinateur, c'est que quand il dit ces mêmes mots, formation, autonomie, contrat jeune, il dit aussi police. Donc là, on peut clairement faire la liaison. La politique des quartiers, c'est une question de police.
C'est ça.
Mais alors là, on est dans son inconscient ou on est dans son arrière-boutique? C'est-à-dire, est-ce que c'est passif ou c'est actif de la part de Sarkozy, ce genre d'association sous-jacente?
Alors, d'une certaine manière, moi, je ne me prononce pas. Ce que je constate, c'est que le citoyen français reçoit ce message-là. Après, on a quelques pistes. C'est-à-dire que pour les discours très construits, appris par cœur, mot après mot, en grande partie par Henri Guénaud, donc on peut absolument penser que c'est volontaire. Et je crois que là, justement, la statistique permet de révéler un trait un peu caché, mais qui a été construit. Ici, en ce qui concerne le mot « police », auquel on est, au fond, renvoyé de manière indirecte et systématique lorsqu'on traite des quartiers, via d'autres mots, via le mot « ville », via le mot « contrat », etc., là, on peut penser que c'est plus inconscient, ou enfin, c'est même pas le terme d'inconscient, c'est qu'il y a une vision du quartier, une construction de l'image du quartier dans le discours de Nicolas Sarkozy, qui imparablement nous renvoie quelque part au commissariat de police qui doit être le cœur, le centre, l'endroit où se jouent beaucoup de choses.
Ça ne peut plus durer.
Une des façons de faire, c'est d'essayer d'accrocher la phrase qui apparaît comme la plus significative de Nicolas Sarkozy. Alors, c'est évidemment un peu compliqué, statistiquement, pour opérer parmi, je crois, les 100 000 phrases que j'ai dans mon corpus, celle qui pourrait apparaître comme la quintessence du sarkozysme. Et je vous la montre tout de suite, parce que d'une certaine manière, effectivement, elle résume un quinquennat. Objectivement,
c'est raffiné, voilà, dans la pipette, ce qu'on retrouve comme l'exemple le plus approchant de ce que pourrait être une équation du sarkozysme en discours.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que le logiciel soupèse tous les mots et regarde, mot après mot, même en l'occurrence presque lettre après lettre, ceux qui sont plus ou moins sarkozystes dans le cadre de mon corpus présidentiel, donc de 1958 à 2012, et il extrait cette phrase. Alors je vous la lis, c'est même presque une double phrase. « C'est un cadeau aux riches, point d'interrogation, et c'est important, puisque l'interrogation rhétorique est une des grandes caractéristiques du discours de Sarkozy. C'est un cadeau aux riches.
C'est un cadeau aux riches, quand on a travaillé toute sa vie, de devoir en plus payer un impôt parce qu'on laisse à ses enfants le produit d'une vie de travail ?
Quand on a travaillé toute sa vie, de devoir en plus payer un impôt parce qu'on laisse à ses enfants le produit d'une vie de travail ?
C'est un cadeau aux riches.
C'est un cadeau
quand
aux riches.
Quand on a travaillé toute sa vie.
Quand on a travaillé toute sa vie.
De devoir en plus
payer un impôt parce qu'on laisse à ses enfants le produit d'une vie de travail.
Alors là, on s'aperçoit qu'il y a toutes les unités linguistiques du sarkozysme qui sont ici concentrées. Par exemple, ça commence par un pronom démonstratif neutre, c'est, qui met au fond l'argumentation sous le sceau de l'évidence, c'est les points d'interrogation, avec une double interrogation, donc c'est aussi le « on » si présent statistiquement dans le discours de Sarkozy, c'est encore évidemment la thématique du travail, avec le mot « travailler », c'est encore un vocabulaire très humain, on va dire, ou compassionnel, avec les mots comme « vie » deux fois, ou « enfant », d'autre part. Et donc voilà, là, il y a un petit concentré qui peut être un angle d'attaque, et évidemment, il convient ensuite de creuser un peu plus avant.
Donc pour la note, c'était une interview qui a été donnée à la télé sur TF1 et France 2 le 29 novembre 2007.
Oui, et alors dans cet extrait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a les deux aspects du discours de Sarkozy. Il y a d'une part une vraie sincérité idéologique et cette croyance qu'il développe sans cesse depuis 2007 sur la fameuse valeur travail. Hein, on le sait en 2007, on le voit durant le quinquennat et on le voit encore aujourd'hui. Finalement, s'il a un credo, Nicolas Sarkozy, c'est cette idée du travailler plus, comme on le sait, du travail, mais c'est-à-dire le travail comme épanouissement de l'individu et pas le travail comme aliénation, donc une sorte de vulgate hegelienne contre le bréviaire marxiste. Et puis il y a tout à l'inverse de la sincérité, un vrai procédé manipulatoire qui vise ici, si vous relisez la citation, à faire croire que celui qui est amené à payer des droits de succession est celui qui a travaillé toute sa vie. Là où on sait que, évidemment, les droits de succession sont payés par l'héritier et non celui qui a travaillé. Donc c'est au contraire une façon de favoriser la rente plutôt sur le travail. Et donc c'est une justification, on le sait, dans cet extrait du paquet fiscal de l'été 2007. Donc c'est très intéressant de voir comment il s'empare de la valeur travail pour peut-être manipuler l'opinion publique en laissant croire que celui qui est au fond de son cercueil, est condamné encore à payer des impôts. Il faut ajouter à ça qu'on sait qu'en 2007, avant de faire passer cette quasi-suppression des droits de succession, il y avait déjà 80% des successions qui étaient exonérées de tout impôt. Donc on voit que cette phrase, en fait, concerne que le décile, ou 20% en tout cas, des plus fortunés. Donc voilà une phrase qui est vraiment intéressante, parce qu'il y a toutes les traces linguistiques du Sarkozy, et puis sur le fond qui marque, me semble-t-il, à la fois la sincérité et la manipulation du discours.
Exigence de résultats, parce que les Français en ont assez, que dans leur vie quotidienne, rien ne s'améliore jamais, parce que les Français en ont assez, que leur vie soit toujours plus lourde, toujours plus dure, parce que les Français en ont assez des sacrifices qu'on leur imposerait sans aucun résultat. L'exigence de résultat est un devoir pour moi.
Voilà un peu, Damon Maillafre, l'état du discours. Alors, avec votre ordinateur, avec votre base de recherche, quelle est un peu la chronique que vous avez faite de cette présidence et de l'évolution de son discours au cours de son mandat ?
Oui, alors, donc effectivement, j'essaye de décrire, j'ai coupé mon corpus en 5 années, et j'ai essayé de voir le vocabulaire qui, tout simplement, augmentait, diminuait, les thématiques qui apparaissaient, qui disparaissaient. Alors, il y a cette constance idéologique dont je parlais, qui est quand même indéniable, mais on sait évidemment que le quinquennat a été rythmé par la question de la crise économique. Alors, la question économique est très présente de façon générale. Le vocabulaire économique est... On peut le citer, crise, dollars, euros, milliards, millions, banques, taux, intérêts, etc.
Dette.
Envahit le discours présidentiel avec Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est aussi une des traces, une des façons de définir un discours libéral, c'est-à-dire c'est un discours qui, quelque part, met la pensée politique à la remorque des impératifs économiques. Ouais. Hein, et ça, on le retrouve statistiquement de manière très, très marquée. Donc il y a, d'un point de vue chronologique, à l'intérieur du quinquennat, ce rythme de la crise, en premier boursière ou financière, puis de la dette grecque. Il y a des thèmes aussi très éphémères, comme le thème de la civilisation. C'est quelque chose qui est très présent pendant les discours de campagne et la première année, et puis qui va totalement disparaître. Ce que j'essaye de montrer, je pense qu'on peut le constater aujourd'hui de manière assez cruelle pour le candidat, c'est qu'il y a surtout une modification et ce passage du volontarisme verbal dont je parlais, du « je veux » à un discours beaucoup plus du constat. C'est-à-dire quand il arrive en 2007-2008, c'est un discours qui est très très porté vers cette action verbale et aujourd'hui qui se rabat sur la constat. En gros, il passe du « je veux l'impossible », ensemble tout est possible, hein, « je veux l'impossible » et par la force de mon discours, par la force de ma volonté, je vais transformer le monde, à « il faut dire la vérité aux Français ».
Hein, donc je veux, il faut.
Voilà.
Alors, ça fait que ça ressemble beaucoup à une gueule de bois et un réveil un peu brutal, non ?
C'est vraiment sa difficulté, hein, me semble-t-il, d'un point de vue rhétorique. Et je pense que le citoyen français, qui est habitué à une identité linguistique, une identité discursive de la part d'un homme politique, a du mal à reconnaître le Sarkozy aujourd'hui par le fait qu'il y a une sorte de résignation, de fatalité. On le retrouve aussi, cette fatalité, au niveau des thématiques du discours. C'est aujourd'hui, si vous écoutez le discours d'Annecy, le discours de Marseille, le discours de Lille, ce sont des quasi-copier-coller, pour avoir étudié de très près les discours, les connaître quasi par cœur de mon côté, c'est quasi du copier-coller de 2007. Il n'y a aucun renouvellement sur la thématique du travail. La seule différence, c'est qu'il y a justement 1 million de chômeurs en plus sur la période. Donc c'est un discours qui est sans doute moins crédible. Vous savez, le discours, des fois, ça se résume à peu de choses. Un discours, on le reçoit en fonction de la crédibilité que l'on accorde à celui qui parle. Une phrase très banale, si elle est prononcée par un chef d'État, par exemple, peut faire sens. Tout d'un coup.
Tout est possible, par exemple.
Par exemple. Et chez Nicolas Sarkozy, il y avait cette habitation dans le discours en 2007 très à droite certes, mais porté aussi par cet élan populaire, cette volonté de réformer la France. Et on lui faisait crédit de son activisme, de cette donc volonté inébranlable, de cette martialité. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce crédit-là préalable qui fait qu'on n'écoute plus ses discours de la même manière. Au fond, il dit exactement la même chose, et c'est un peu son problème, mais avec cette crédibilité en moins et avec ce volontarisme en moins. On le voit aussi, voilà, d'un point de vue lexical, si vous voyez tous les adjectifs qu'il utilise au début de la période, voire des superlatifs, c'est fantastique, c'est remarquable, c'est excellent, quand il juge ses collaborateurs, Rachida Dati, extrêmement brillant, enfin des mots très forts, et rien qu'au niveau du vocabulaire, on s'aperçoit que ce vocabulaire enthousiaste, finalement, disparaît, s'étiole, malgré lui, hein, c'est là où la statistique est intéressante. Voilà, on peut, dans la longueur, on s'aperçoit que tout ce vocabulaire enthousiaste, volontaire, disparaît au fil du temps, et comme si un peu le discours avait épuisé toutes ses ressources, et Nicolas Sarkozy, justement, renonçait à transformer le monde en parlant.
Je suis très content d'être là, j'espère qu'ils vont les écraser, et qu'on va gagner, disons, je l'adore. On a un président extraordinaire.
Voilà, c'est un excellent capitaine et tout le Var est derrière lui.
C'est le meilleur président, Nicolas. Dieu à moi, il veut la France forte.
Et on est parti à 5h du matin. On vient du Doubs. On est ultra motivé. Et comme vous l'entendez derrière moi, on va gagner.
On va gagner. Ok, Sarko.
Je pense que le prochain président de la République, ce sera Nicolas Sarkozy.
Et donc, pour conclure, Damon Mayafre, on nous a trompés. Ça ne peut plus durer. Dites-moi si je me trompe. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Sarkozy va-t-il être réélu? Que nous dit votre ordinateur?
La réponse est délicate, évidemment. Je n'ignore pas les sondages actuels. Je pense qu'il a des vraies ressources, justement discursives, pour essayer de rebondir. Je pense néanmoins, à l'écoute de ses tout derniers discours, que la mécanique du discours s'est en partie cassée. Et notamment sur l'idée qu'un discours doit être porté par une personne qui dispose d'une certaine crédibilité pour être audible. Il a promis plusieurs fois de ramener le chômage à 5%. Et il a dit qu'il voulait être jugé sur, s'il devait être jugé sur une seule réalité, ça serait celle-ci. Bon, là, on est plutôt proche des 10% et surtout une tendance qui augmente au fil du quinquennat. Donc là, c'est vraiment délicat.
Exigence de résultats. Parce que les Français n'ont assez des sacrifices qu'on leur imposerait sans aucun résultat. L'exigence de résultat est un devoir pour moi.
Bon, les promesses, on sait que c'est un jeu qu'on pourrait pratiquer, au fond, avec tous les hommes politiques, mais l'ensemble du discours est tellement tendu, et il le répète tellement de fois, vers cette efficacité, vers cette volonté de changer les choses, vers cette volonté de faire rupture, qu'en candidat sortant, je pense qu'il a un trop gros handicap à surmonter. Et si vous ajoutez que les thématiques qu'il développe, en tout cas dans ses 3-4 premiers meetings de la campagne électorale, sont vraiment des reproductions de ce qu'il a prononcé avant, on a vraiment le sentiment d'un président en mal d'imagination pour rebondir au niveau du discours.
Mais d'ici là, vos ordinateurs vont continuer à travailler et à saisir tous les mots de la campagne qui vont être prononcés par les uns et les autres.
Ah oui, c'est mon quotidien, j'allais dire. J'engrange les discours quotidiennement et j'essaye de voir comment tout ça s'inscrit dans un cadre d'un temps un peu plus long.
Mais comment vous allez faire, vous, s'il n'est pas réélu, pour vous sevrer du discours sarkozyste d'Amon Mayafre?
Alors là, j'y travaille effectivement depuis maintenant 6 ans, hein, puisque j'ai commencé pendant la campagne dès décembre 2006. Donc il va falloir faire une cure de désintoxication, c'est évident. Mais bon, l'avantage de mon travail, c'est que je suis à peu près sûr qu'il y aura un nouveau président à analyser. Et ma foi, si je devais changer de personnalité, peut-être que ça me soulagerait en partie.
Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Parce que c'est l'ambition minimum que la République
et je sais,
c'est à l'école.
Ad nauseam. Merci à tous, merci à Damon Mayafre. Je rappelle encore une fois le titre de son bouquin, Nicolas Sarkozy, Mesure et des mesures du discours aux éditions Sciences Po. 6 ans de boulot quand même, c'était un reportage de Guy Van Til. À signaler également un hors-série Politis, ce qu'il a fait à la France, le « il » en question. Vous vous doutez de qui l'on parle dans ce numéro de Politis avec un entretien avec Emmanuel Todd, particulièrement perspicace et gratiné, et un numéro très intéressant. Et puis à signaler autre chose, le 7 mars, la semaine prochaine, sort sur les écrans le film de Stéphane Mercurio, À l'ombre de la République, on en reparlera. Pour trouver toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, et on peut se retrouver sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincé et David Federman, Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovic. Attends vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Ceci n'est pas une pub qui vous dira que les Africains ne sont que des assistés. Ceci n'est pas une pub qui vous dira que les Indiens sont borgnes ou cujat. Ceci n'est pas une pub qui vous dira que les enfants des favelas sont violents ou drogués. Ceci est une pub pour vous rappeler que les hommes et femmes des pays du Sud ont du talent et des idées. Aidez-nous à soutenir leurs projets. En 2011, grâce à votre générosité, le CCF des Terres Solidaires a soutenu 500 projets dans 63 pays. Ensemble, continuons. ccfd-terresolidaires.org.
France Inter, partenaire de la tournée Vagabonde de Claire de Namur.
Mon corps n'abrite rien de moi.
Entre folk et blues, le timbre écorché de Claire de Namur nous transporte vers les grands espaces américains. En tournée dans toute la France. Retrouvez Claire de Namur dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
À demain, 15h, pour Là-bas si j'y suis. Ce sera, je pense, avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de mars du Diplo. À demain donc, 15h, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Après avoir été l'invité de France Inter ce matin, Nicolas Sarkozy s'est rendu au Pays Basque aujourd'hui pour y visiter une ferme. Et en marge de ce déplacement, trois personnes ont été interpellées cet après-midi. Elles ont contourné en fait une manifestation pour s'approcher de la ferme et ont tiré des fusées en l'air. Ces personnes faisaient partie des opposants à la ligne à grande vitesse qui doit rallier Bordeaux à l'Espagne. Des ministres du gouvernement, Valérie Pécresse et l'autre et Laurent Wauquiez qui se rendaient dans l'Ain et le Rhône, ont eux été retardés du côté de Lyon aujourd'hui. Idem pour François Hollande qui tient ce soir un meeting dans la capitale des Gaules. La faute en fait à une quinzaine de personnes cagoulées qui ont projeté des sacs de sable sur des caténaires. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place, on ignore le sens de cette manifestation. En tout cas, les trains ont eux étaient retardés de près d'une heure. Dans la campagne présidentielle, concours de tract aujourd'hui, l'UMP affirme en avoir fait tirer 21 millions depuis le début janvier pour vanter le bilan de Nicolas Sarkozy. De son côté, le PS aujourd'hui a présenté les nouveaux exemplaires. 5 tracts thématiques portant notamment sur le pouvoir d'achat. 10 millions au total qui vont témoigner, selon l'équipe de campagne de François Hollande, d'une amplification de la campagne de terrain. Eux aussi, ils distribuent les tracts, mais cette fois au Salon de l'agriculture. Les militants de Debout la République. Ils étaient aujourd'hui aux côtés de leur champion Nicolas Dupont-Aignan, porte de Versailles à Paris. Sur leurs affichettes, un message, la préférence communautaire européenne et stop au verdissement de la politique agricole commune. Ils dénoncent notamment les contraintes environnementales abusives. Toujours au Salon de l'agriculture, en visite aujourd'hui également le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui est allé encourager l'Outre-mer à développer sa production locale afin d'éviter, je le cite, des importations coûteuses. Une visite et des mots qui interviennent quelques jours après les manifestations et les émeutes contre la vie chère sur l'île de la Réunion. À l'étranger, après un mois de tir intensif et deux jours de combat avec les rebelles, l'armée syrienne dit avoir pris aujourd'hui le contrôle du quartier de Bab Hammer à Homs. Les insurgés, eux, parlent de retrait tactique. En tout cas, selon Damas, les soldats sont en train de distribuer de la nourriture à la population et d'évacuer les blessés. Ils sont aussi à la recherche des deux journalistes français du Figaro, dont Edith Bouvier, blessée à la jambe. Le Parlement français a adopté définitivement aujourd'hui la proposition de loi UMP dite Petroplus, du nom de la raffinerie de Seine-Maritime à Petit-Couronne qui a vu ses comptes vidés quelques heures avant le dépôt de bilan. La loi vise en effet à mettre fin au comportement abusif afin d'empêcher le détournement d'actifs d'une entreprise défaillante. Autre texte que les députés sont en train actuellement d'examiner, la proposition de loi UMP sur l'enfance délaissée et l'adoption. Ce texte prévoit notamment une réforme de l'agrément et donc de l'adoption simple. Les députés veulent raccourcir les les délais d'adoption et mieux préparer les candidats. Le hameau de Courbefille en Haute-Vienne n'a toujours pas trouvé preneur. Après celle avortée du 20 février dernier, le hameau sera à nouveau mis aux enchères le 21 mai prochain. Adossé à une forteresse du XIIIe siècle et culminant à 600 mètres d'altitude, le hameau comprend 19 bâtiments, une piscine, des cours de tennis et des box à chevaux. Il est à l'abandon depuis 4 ans, mais la publicité qui lui a été faite ces derniers jours a permis, selon le défenseur des intérêts de la banque nommée adjudicataire provisoire, de voir arriver de nouvelles offres d'achat. Il en faut quand même pour 300 000 euros. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Quand la musique donne, Didier Varro.
Rock, musique électro, techno,
chansons, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
Quand la musique donne, les styles se croisent, se rencontrent et s'interpellent. L'ombre des fantômes de la Grande Sophie face à la lumière apparente du groupe Pony Pony Run Run. Rencontre au sommet, au pays de la pop culture, des tubes et des plaisirs parfois contrariés.
Quand la musique donne, demain sur France Inter, à partir de 16h. France Inter, la différence.
Un petit hameau pour faire de la musique classique.
Ah ben voilà, un grand pays, on va commencer avec la Chine. À bientôt Laetitia.
À bientôt.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous. Et oui, l'immense Chine s'intéresse beaucoup à notre musique classique. On connaît Lang Lang, le fameux virtuose qu'on a pu admirer aux Jeux Olympiques. Et on sait aussi tous les moyens qu'il a, ses avions privés la plupart du temps pour les voyages, sa ligne de basket, de chaussures de sport, et puis sa virtuosité énorme, son sens du show. Et puis il y en a un autre, je dirais pas à ses côtés, parce qu'ils sont un petit peu rivaux. C'est Yundi, ça s'appelait Yundi Li avant, maintenant c'est Yundi tout court. Et un disque vient de paraître, ça s'appelle le Piano Rouge. Il y a un morceau qui est assez fameux en Chine, un peu moins chez nous, qui s'intitule Le Concerto du Fleuve Jaune, d'après Xian Xinghai, qui était un compositeur né en 1905. Il a vécu peu, 40 ans seulement, et il est venu premier étudiant chinois, étudié au Conservatoire de Paris. Ça n'est pas rien. Il aurait composé une cantate, Le Fleuve Jaune, donc en 6 jours au fond d'une grotte, une cantate patriotique, et on a tiré ce concerto. Quand je dis on, c'est qu'il y a plusieurs arrangeurs, au moins 6 arrangeurs. C'est une méthode extrêmement collective. Bien sûr, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, l'auteur, c'est bien lui, à la base, Xian Xinghai, et le pianiste Yundi. prélude Le Chant du Batelier du Fleuve Jaune, tiré du Concerto du Fleuve Jaune, d'après Xian Xinghai, interprété par